on connaît la chanson.
1, 2, 3, 4.
Chaque samedi à midi sur JetFM 91.2, Trafic d'air vous propose de vivre en prise directe avec la chanson d'aujourd'hui.
Semaine après semaine, au fil de chroniques, interviews et tribunes critiques, Trafic d'air va à la découverte de la chanson d'aujourd'hui.
Partagez vos coups de cœur et vos coups de gueule. Jouez, chantez. Et retrouvez-nous chaque samedi à midi sur JetFM 91.2.
Aujourd'hui, c'est rediffusion, parce que j'avais envie de vous faire réentendre cet entretien enregistré il y a 2 ans avec Carrie Bush. Pour quelle raison ? Ben, tout simplement parce qu'elle fait partie de la petite troupe de chansons primeurs qui se produira très bientôt sur la scène de la Bouche d'air. J'espère que vous avez déjà pris vos places. Je pense que j'aurai l'occasion de la rencontrer dans le moment de gestation, de préparation des chansons. Mais avant cela, retrouvons cette rencontre que j'ai faite avec elle il y a déjà 2 ans.
Le nez hors de ma mère. Premier bébé de l'année, première page assurée, une belle notoriété, un avenir tout doré. Mais dans la maternité, y a pas que ma mère. Un autre était arrêté sans faire de manière. Il m'a distancé dans le sprint d'arrivée. C'est lui le premier bébé de l'année. Je suis à contre-temps, toujours à contre-temps. À contre-temps, toujours à contre-temps. Estrade et tableau noir, au cours élémentaire. Adjectif, épithète, c'est le cours de grammaire. J'ai bien tout révisé, je peux tout réciter. Allez, mademoiselle, allez, il faut m'interroger. Mais dans une autre rangée, juste derrière, un gamin se lève le doigt bien pointé en l'air. J'ai pas eu le temps de bouger, trop tard je suis dégoûtée. J'avais bien tout révisé, je pouvais tout réciter.
Je suis à contre-temps, toujours à contre-temps.
De 3 fois, rien d'un poil d'une virgule.
Je suis à contre-temps, toujours à contre-temps.
L'horloge de ma vie, dès qu'on a plein de tubes.
Je suis à contre-temps, toujours à contre-temps. Je suis à contre-temps.
Avec le beau Abder, il est beau, il est brun et il a les yeux verts. Oui, il est berbère, ça fera plaisir à mon père. Il m'attend au café, il m'amènera à dîner. On ira au ciné et plus si affinité. J'arrive en courant sur le boulevard Voltaire. La terrasse est pleine, mais je ne vois pas Abder.
Quoi ? Il a filé ? Il est 9h passé ?
Merde, j'avais oublié, on est à l'heure d'été.
Contre-temps, toujours à contre-temps.
3 fois, rien d'un poil d'une virgule.
Je suis à contre-temps, toujours à contre-temps.
L'horloge de ma vie déconne à plein tube.
Je suis à contre-temps, toujours à contre-temps.
3 fois, rien d'un poil d'une virgule.
Je suis à contre-temps, toujours à contre-temps.
Il y a des gens dans la vie pour qui tout est clair. À l'heure, au rendez-vous et aux anniversaires, leur montre est réglée sur l'heure de la télé. Et ils n'ont jamais loupé la cuisson d'un soufflé.
Moi, j'ai toujours eu du mal avec les horaires.
Mais je me dis que quand la vieille sorcière viendra pour me faucher, il pourrait bien arriver que je laisse passer l'heure de me coucher.
Je suis à contre-temps, toujours à contre-temps.
3 fois, rien d'un poil d'une virgule.
Je suis à contre-temps, toujours à contre-temps.
L'horloge de ma vie déconne à plein tube.
Je suis à contre-temps, toujours à contre-temps.
3 fois, rien d'un poil d'une virgule.
Je suis à contre-temps, toujours à contre-temps. Je suis à contre-temps, toujours à contre-temps.
2-3 fois, rien d'un poil d'une virgule.
Je suis à contre-temps, toujours à contre-temps.
L'horloge de ma vie déconne à plein tube.
Je suis à contre-temps, toujours à contre-temps. contre-temps, toujours à contre-temps. Je suis à contre-temps, toujours à contre-temps.
Deux, trois fois, rien d'un poil d'une virgule.
Voilà, j'ai laissé Caribouche faire la présentation elle-même, toujours à contre-temps. On va en parler d'ailleurs dans l'interview qui va suivre, puisque j'ai eu le plaisir, le bonheur, l'honneur, je dois dire que j'étais très content de rencontrer Caribouche à l'occasion d'un chant-appart qui a lieu il n'y a pas très longtemps. Je vous en ai parlé déjà la semaine dernière, puisque dans la même soirée, il y avait Jeanne Rochette, dont on a parlé justement dans l'émission précédente. Donc là, c'est Caribouche qui nous raconte un peu son parcours d'artiste, son parcours de femme. Vous allez voir la vitalité, la gouaille, l'engagement, le féminisme de Caribouche que vous alliez découvrir au fil de ces moments, c'est savoureux. Et écoutez, j'ai plus rien à dire et on démarre sur cette interview.
Alors cette fois, je suis avec Caribouche. Un peu inespéré pour moi, parce que Caribouche, c'est quelqu'un que j'écoute depuis longtemps. J'ai découvert avec son premier album, sur lequel j'avais vraiment flashé en me disant « ça c'est chouette, c'est bien, il y a un truc qui se passe, elle a de la gouaille, elle déstabilise les choses, enfin bon, et il y avait quelque chose que j'adorais là-dedans. Je t'ai vu au Franco et ça avait été un concert que j'avais adoré aussi, enfin, j'avais passé un très bon moment. Et puis après, plus rien, un peu disparition, passé ailleurs, et puis moi je me suis occupé d'autre chose, et puis réapparition, et puis à nouveau disparition, je sais pas, Caribouche a plusieurs vies, j'imagine, il va falloir que tu nous expliques ça. Hein. Et puis, il y a un nouvel album, hein, Folie Berbère, qui est arrivé il y a quoi, il y a un an
Il y a un an, oui.
Ouais, c'est ça. Et un nouvel album qui a été annoncé par un clip transcendant et tonitruant, avec un casting avec Flavia Coelho, Aïssa Maïga, enfin, je suis tombé là-dessus, j'ai dit, oh là là, mais là, elle a frappé fort, là, c'est une arme de construction massive. Hein, c'est ça,
avec toutes les copines, il y a même ma grand-mère qui a 94 ans.
Ah, c'est ça, la vieille dame.
Il y a ma mère, il y a ma grand-mère, il y a Lina Koudry, avec qui j'ai joué dans une série qui s'appelle Les Sauvages, qui a été césarisée pour un film qui s'appelle Papicha.
Ah oui.
Voilà, et qui joue ma fille dans une série qui s'appelle Les Sauvages. Il y a Souheila Yacoub aussi qui tourne dans Les Sauvages. Farida Rawaj. Il y a Nawel Ben Krayem, qui est une chanteuse tunisienne que j'adore et qui est une amie. Il y a Awali, qui est aussi une chanteuse amie que j'adore. Donc j'ai Carmen Maria Vega, Zaza Fournier.
Oui, oui, oui.
Donc là, j'ai réuni toutes les femmes qui m'inspirent et que j'aime. Et voilà, on s'est réunis. En plus, c'est après le confinement, alors je peux te dire que...
Vous vous êtes lâchée.
On était heureuses, mais tu peux pas t'imaginer. Et aussi, je suis très honorée, Georges Fischer, de faire cette interview avec toi.
Je prends. Hein, moi,
ça vient du cœur, vraiment.
Bon, merci. Alors, en fait, moi, j'ai envie que les auditrices de Trafic d'air, de TFM, découvrent qui tu es un peu mieux. Là, on a très vite brossé quelque chose, balayé quelque chose, mais maintenant, on va entrer un peu plus dans les détails. Et d'abord, finalement, tu es une fille des quartiers. Souvent, on dit ça. Est-ce que c'est de là que tu viens? Parce que dans ta musique, tu utilises du beatbox, tu utilises en fait des ingrédients du hip-hop, en fait, de cette culture-là. Est-ce que c'est vraiment une culture qui t'est originelle? Ou est-ce que tu es passé aussi par d'autres influences? Quelles sont les
alors,
influences?
Alors au départ, vraiment, alors, les influences sont assez variées. Mais oui, j'ai grandi dans un quartier. C'est très rare, les gens de ma génération, les enfants d'immigrés qui habitent dans des villas. Donc j'ai grandi vraiment dans des quartiers, dans plusieurs régions. Je suis née à Angoulême.
D'accord.
Donc je suis charentaise berbère.
Tradition du goût.
Charentaise berbère,
d'accord.
C'est moi.
Impeccable.
Et ensuite, après moi, j'ai beaucoup écouté la chanson française comme Jacques Brel, que j'aime à la folie. Et, Edith Piaf, Fréhel, Léo Ferré, Oum Kulthoum.
Ça, c'est moins de la chanson française.
Non, c'est moins de la chanson française, mais après, ça a été mélangé. Ouais. Ma mère écoutait beaucoup Férouz, Chicharimiti, tout ce mélange. Et puis, en même temps, mes cousins écoutaient beaucoup de hip-hop. Il y avait beaucoup de gamins dans le quartier qui faisaient des instrus, des productions d'instru, hip-hop. Et puis moi, ça a commencé comme ça, en fait. Au début, je chantais dans ma cage d'escalier pour la réverbe.
Super.
Donc ça, c'était petit, on l'a tous fait. Et même quand je chantais pas, quand j'étais pas là, t'avais une voisine qui allait frapper à la maison et puis qui disait « Bonjour, mais Karima est malade !»«
Mais chante
pas !»« Non, elle est chez sa tante. » »« Ben non, parce qu'on l'a pas entendu chanter dans les escaliers aujourd'hui. » Et j'allais poser ça a commencé comme ça, où j'ai commencé à les poser avec mes cousins, avec les gamins des quartiers qui faisaient des instrus, où je posais du Edith Piaf, du Brel.
Carrément.
Et où je baratinais aussi. On me disait, c'est toi qui as écrit ça? Je faisais, ouais. J'étais déjà une mytho, mais je me suis fait démasquer très rapidement. Non, vraiment, blague à part. Bien sûr que je le disais, mais que c'était pas moi. Mais... Et voilà, et c'est venu comme ça. Donc, c'est un mélange. Et pour moi, la France d'aujourd'hui, c'est ça. C'est un mélange. Je suis la France aussi. Mmh. Parce que c'est vrai qu'il y a des...
Bien sûr.
Où souvent, ça m'est arrivé... ça m'est arrivé trop souvent d'avoir des interviews où le journaliste te dit, alors Carimouche, de faire de la musique, est-ce que ça vous a aidé à vous intégrer? Mais c'est à lui d'intégrer que je n'ai pas à m'intégrer.
Il vaut mieux rire qu'en pleurer.
Ah bah oui, puis cette question m'a désintégrée, j'ai envie de dire.
Oui.
Donc c'est le message en tout cas de dire qu'on est français. C'est une vérité, d'où le titre Folie Berbère, pour moi c'était une façon assez poétique et drôle de dire les Folies Bergères, qui est un cabaret mythique, c'est le premier cabaret à avoir fait à avoir invité des gens d'autres pays, comme les Charbleurs de Serpents à l'époque, Joséphine Baker, mais il y avait une espèce de truc frix, on amène des sauvages pour eux, il y a plein d'articles là-dessus, plein de hyper intéressants. Puis après, il y a eu Joséphine Baker, qui est une artiste avec cet album Folie Berbère aussi. Il y a eu Kaina, le personnage Kaina, qui est un personnage mythique pour nous, les Berbères, qui était la première des guerrières. C'était la première féministe pour nous. Et ça date de avant l'islam. C'est une femme qui a dirigé des armées de soldats. Mais c'est la première fois que les hommes se font diriger des soldats par une femme, vous imaginez en plus à quelle époque où ça s'est passé, beaucoup de gens disaient que c'était une sorcière.
Tu évoques ça parce qu'il y a une chanson qui en parle, je me souviens.
Non,
plus
c'est la totalité chansons. De ces. C'est plus
l'album entier qui est. Voilà.
Princesse, même si c'est pas là, elle m'a
c'est
inspirée.
Elle.
J'ai grandi dans une famille matriarcale, beaucoup de femmes. Ça veut dire du côté de ma mère, elles sont 6 tantes pour un oncle.
Ah oui.
Donc.
Mais beaucoup de femmes, mais avec quel statut?
Ah non, c'est elle qui commande.
Là, je voudrais bien qu'on mette une plage musicale
bien
et
sûr.
Je te proposerais bien d'illustrer ce que tu viens de dire par une des chansons de Folie Berbère que tu choisirais spécifiquement. Laquelle est-ce que tu mettrais pour nous faire ressentir? Alors évidemment, il y aurait peut-être Princesse, mais.
Au sujet des femmes. Il y a Princesse.
Ouais, au sujet des femmes.
Il y a. L'écume des sourds.
L'écume des sourds.
C'est une femme qui attend l'amour, en fait, qui cherche un amour idéal. J'imagine que c'est une femme qui attend sur le port le marin de ses rêves. Et comme dans ma famille, les femmes n'ont pas eu des histoires d'amour très lumineuses, du coup, il y a eu ce truc-là, cette envie d'écrire ça, parce que même si elles n'en parlent pas, on est tous égaux là-dessus, on cherche tous l'amour de manière différente, mais... C'est quelque chose qui nous unit tous, pauvres, riches, la mort et l'amour.
C'est vrai.
Il y a quelque chose
on
quand même dans la...
On en parle beaucoup en ce moment dans les cercles féministes de l'amour
bien
et
sûr,
de la révolution romantique.
Bien sûr, mais sans l'amour, nous ne sommes rien.
Oui, c'est vrai.
Moi, je suis une grande amoureuse. J'ai même besoin d'être amoureuse, que ce soit de mon travail ou être amoureuse dans la vie, parce que c'est quelque chose qui est un moteur pour moi. Donc on cherche toujours pareil, d'être sur scène c'est pareil, c'est à chaque fois c'est comme un nouveau rendez-vous, un premier rendez-vous avec le public, tu sais pas qui tu vas avoir
la fameuse,
en face de toi.
La plus belle histoire d'amour, c'est vous.
La première, ouais. Bien sûr, la plus belle histoire d'amour.
On écoute cette chanson? Voilà,
avec plaisir.
On y va.
Bla, 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 bla,
vous écoutez bla, bien en ce moment Trafic bla, d'air bla, sur Jet FM 91.2.
Créez-les-moi la mousse de l'innocence. Quel marin au long cours emportera au vent les sirène de l'amour, le vague dans mes tympans. L'écume des sourds, l'écume des sourds, l'écume des sourds, l'écume des sourds. Où est le gentleman, le vagabond du globe, qui allumera la flamme d'un murmure à mes lobes? Je cherche son silence à coups de solitude, de nuit contre le jour, de bruit de multitude. Trop de longues errances, sonne le compte à rebours. Je pleure son absence, j'espère son retour. L'écume des sourds, l'écume des sourds, l'écume des sourds, l'écume des sourds. L'homme à qui dire je t'aime, ou m'échouer seul dans le bruit des faubourgs, mon rêve comme un linceul s'évanouit pour toujours. Mon rêve comme un linceul s'évanouit pour toujours. Mon rêve comme un linceul s'évanouit pour toujours.
C'était une chanson de Folie Berbère et on va continuer à parler avec toi, Carimouche. Et j'aimerais bien qu'on soit plus précis sur finalement les vrais déclencheurs, les profonds déclencheurs du moment où tu te mets à écrire des chansons, à fabriquer quelque chose qui va devenir ton répertoire, mmh. ton premier album. C'est-à-dire, c'est plus chanter du piaf sur les instrus des potes de la cité, mmh. c'est fabriquer quelque chose de toi. À contre-temps, semble-t-il.
Alors, complètement, c'est tout moi, ça. Oui. Alors, en fait, ça a été quand même assez... C'est une histoire un peu... J'ai jamais... je ne suis pas quelqu'un... Et j'ai eu un gros problème de légitimité au départ, quand je me suis lancée dans la musique. C'est que ce n'était pas prévu.
Oui.
En fait, je chantais, comme je te disais, voilà. dans les cages d'escalier, nanana, et j'ai commencé à écrire où je travaillais en tant que costumière ou comédienne. Dans des compagnies, c'était dans mes débuts, quand je suis sortie de l'école. Et
école, alors
de l'école S-Mode. J'ai fait une école qui s'appelle S-Mode.
Une école de mode, enfin, voilà. une école de, Mais qui de, est du très... costume.
Alors, c'est dans cette école, c'est Madame de Chanel qui a monté cette mm-hmm. école, il y a très longtemps. Donc, c'est une école de luxe, c'est une très bonne école, où dans le jury, tu as Christian Lacroix, aujourd'hui Jean-Paul Gaultier. C'est ça, en fait, le jury qui est chez S-Mode. Et à S-Mode, tu peux choisir des spécialités. Donc, il y a haute couture, costume de scène, prêt-à-porter, enfant, lingerie, etc. Et moi, je voulais rentrer à S-Mode pour faire costume de scène. Mmh. Mais dans ma tête, c'est pas... je voulais être costumière et faire des costumes, mais je pensais à moi en me disant, voilà, je fais du théâtre depuis l'âge de 12 ans dans le MJC de mon quartier, etc. J'ai toujours eu... ce truc de doublon, de double casquette. Et comme je viens d'un milieu qui n'est pas très riche, je me disais, je vais tout faire. Je vais faire mes costumes, je vais faire... C'était limite, je vais faire la lumière, je vais faire le son, oui, oui, je vais oui. faire les effets spéciaux.
Enfin, self-made bon, woman. C'est ça, super ça, woman peut-être.
Ça vient de mon éducation aussi. Toutes ces femmes qui sont mm-hmm. toujours débrouillées à faire le père, la mère. Mm-hmm. Donc, il y avait vraiment cette envie-là. Après l'école, j'ai commencé à travailler dans des compagnies de rue, des compagnies, bref. Et j'écrivais. C'est là où j'ai commencé à écrire.
D'accord.
J'écrivais des chansons sur l'équipe, sur les gens.
Mmh.
Donc, c'était assez drôle au départ. Je faisais vraiment que des chansons comique. Mmh. Parce que en parallèle...
Pas surprenant vraiment.
Parce que en parallèle d'Esmod, moi, je voulais vraiment faire du seul en scène.
D'accord.
Comme quand j'étais très petite, à l'époque, il y avait Michel Boujna. Mmh. Enfin, je veux dire, des enfants d'immigrés et tout. Mmh. Il y avait Smaïn. À l'époque, mm-hmm. c'est un peu les premiers rebeux en fait qui sont mis dans l'humour. Donc j'étais fascinée quoi par ce truc. Bon, y avait Félag aussi, mais Félag c'était encore.
Ah, c'est génial Félag.
J'adore.
Ah oui.
Et donc moi je faisais vraiment, j'étais vraiment dans le théâtre et dans l'envie de faire du stand-up.
Ouais.
Plus du seul en scène que du stand-up. Et puis ben voilà, et puis après ça a commencé à se lier. J'ai commencé à écrire comme ça pour rire. Et puis après, j'ai commencé à faire le petit kawa. C'est le premier vraiment. C'est pas le premier morceau, parce qu'après les autres, c'était plus d'écrire, comme je te disais, sur les personnages que je rencontrais et les gens avec qui je travaillais. Et puis après, j'ai écrit le petit kawa chez moi, à Perrache, à Lyon. Mm-hmm. Je suis partie vivre à Lyon. Et dans Perrache, à l'époque, c'était assez glauque. C'était vraiment la rue des prostituées, des junkies. Mm-hmm. C'était vraiment en face de la gare, quoi. Mm-hmm. Et j'ai écrit cette chanson qui est assez déprimante en fin de compte, le petit kawa. Mais le refrain est très levé, très chanté, très joyeux en fin de compte. Et j'avais vraiment envie de mêler ce truc-là, avec ce décalage, de chanter des choses avec des sujets graves quand même, pas sur tous les morceaux, mais le petit kawa était la première. Et je posais toujours sur des instrus hip-hop, comme d'accord. font les rappeurs, mais des instrus connus comme Dr. Dre et d'autres. Et puis après, j'ai fait mon premier EP en 2008. Mmh. Et puis après, mon premier album, L'emballage d'origine, est sorti en 2010 avec les Hebda qui ont été producteurs exécutifs. Donc, c'est super. Les premiers où moi, j'avais un problème un peu de légitimité. Je le faisais, mais je me disais, mais non, mais je suis pas chanteuse. Je suis raconteuse à la limite, mais chanteuse, non, c'était trop lourd pour moi.
Oui, mais en même temps, tu croisais quelque part ce que faisaient les chanteuses réalistes.
Oui, complètement.
Sauf que les chanteuses réalistes, bien souvent, n'écrivaient pas leurs textes, alors que toi, c'est toi qui écrivais tes chansons. Et ça, c'est une grosse différence en même temps. Tu t'es pas retrouvée dans le costard de quelqu'un d'autre. Là, en l'occurrence, tu t'es habillée toi-même.
Oui, je me suis habillée moi-même et en même temps, je me sentais nue. Quand t'écris
y a
des
plus
trucs,
nu.
Tu vois,
y a plus
tu
nu,
connais.
Y a plus nu.
Franchement, là, y a plus nu. Là, là.
Mais non, il n'y a plus nu parce que. Enfin, c'est marrant parce que quand tu dis je me sens nu, ça me fait penser au conte d'Andersen, les habits neufs de l'empereur, où l'enfant dit le roi est nu. Le roi est nu. Et moi, je pense souvent le roi est nu quand je pense à des gens qui finalement nous font tout un pataquès pour rien, où finalement il n'y a rien à voir. Mm-hmm. Et chez toi, il n'y a pas rien à voir. On est loin, au contraire, du rien à voir. Il y a beaucoup à savourer, à découvrir. Et là, je trouve que non, t'es pas nu du tout. T'arrives avec des billes. Et puis, effectivement, alors, je reviens encore sur les Folies Berbères. Tous ces costumes, on en voit l'origine. Finalement, tu nous expliques que tu as travaillé sur le costume. C'est quelque chose qui t'est familier.
Ah oui, j'ai travaillé avec beaucoup de compagnies.
Là, on parle bien de l'habit en tant qu'habit, de textile, celui qui vêt le corps. Et en fait, c'est extraordinaire.
Même... Je suis autodidacte, donc par exemple, je ne peux pas dire à un musicien ça, c'est un si, ça, c'est un mi. Ça.
Ah oui.
Par contre, si c'est faux, je vais l'entendre.
Ouais.
Et avec mes musiciens, je vais parler en termes de couture. Ça veut dire si, entre un couplet et un refrain, la rupture n'est pas fluide, je vais dire là, la couture, elle est trop voyante.
Oui, ben voilà.
Mais maintenant, ils ont l'habitude.
Oui.
Tu vois. Donc du coup, je parle vraiment avec des termes de couture.
Parce qu'en fait, quand tu écris les textes, tu fabriques ta mélodie par la même occasion.
Oui, mais par contre, ça se dit pas par contre d'ailleurs. En revanche, chaque fois que je dis par contre, on me dit mais ça se dit pas, Karima, par contre. Eh ben, en Charente, ça se dit.
Là, il y a quelque chose d'une autodidaxie. Enfin, tu fais ce que tu peux avec les moyens dont tu disposes pour parler de musique, alors que tu n'es pas musicienne.
Non.
Mais tu fais tes mélodies, tu fais ton texte avec ta mélodie, et les musiciens viennent. Pour adapter ça, l'harmoniser.
Alors, je viens sur scène, j'ai déjà mes morceaux arrangés. Alors, j'ai une habitude, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne fais jamais mes albums avec les musiciens avec qui je joue sur scène.
Ah oui?
Non.
Tiens.
Bah, ouais. Donc, en fait, le premier où donc j'ai créé mes morceaux, J'ai travaillé avec l'équipe des Hebda. Sauf qu'en fait, mes morceaux, mis à part le premier, où par exemple, on a fait Tizen avec Koch, qui, c'est lui qui a fait D'accord. la mélodie de Tizen. Sur Qui c'est qui m'aime, c'est lui qui a sorti le gimmick. Et puis après, on a creusé, etc. C'était vraiment une improvisation qu'on faisait avec Koch. Mais j'aime travailler à part, parce que c'est pas un groupe. C'est un peu bizarre. Enfin, c'est pas bizarre, en fait, donc ça, c'est... Et puis les musiciens changent, j'ai toujours la même équipe, pas sur tous les albums, parce que du coup je me sens prisonnière s'il y a un prisonnier, s'il y a un musicien qui peut pas être avec moi, etc. Oui, oui. Donc je forme mes équipes, mais tout le monde a des doublons, parce qu'ils ont tous des projets aussi à côté.
Oui, oui, bien sûr.
Voilà, c'est le jeu de l'intermittence, quoi. Donc, j'ai le deuxième où je voulais vraiment travailler aussi avec Vincent Segal au départ, où on a travaillé au
Vincent
début,
Segal.
Et Lionel Suarez. Donc c'est Lionel Suarez qui a réalisé mon deuxième album.
Ouais. Alors là, on est quand même avec des pointures quand même.
Oui,
hein.
Et ça m'a beaucoup
Vincent
aidé.
Vincent Segal qui a joué du violoncelle avec Sting.
Ouais, ouais, ouais. Et
Lionel
c'est
Suarez.
C'est Vincent qui devait réaliser
Lionel
mon deuxième
Suarez
album.
Lionel Suarez qui avait fait tout un truc avec...
Avec
Garo. Et puis je pense
il a fait un quatuor avec Vincent Segal aussi.
Ouais, c'est Lionel ça. Suarez. Mais je pense aussi à ce qu'il a fait en duo avec ce avec Trintignant.
Ah
Oui, enfin bon, c'est... voilà.
Il a associé avec Clotilde Kourou.
Ouais.
Où elle c'est... lit des lettres du dernier amant de Edith Piaf.
Voilà,
la correspondance. Moi, j'ai pleuré. C'est un des musiciens qui me fait pleurer. D'émotion, c'est un virtuose, il fait l'amour à son accordéon.
Oui.
C'est vraiment quelque chose, il m'émeut.
Bon, restons décents quand même, l'émission passe à midi. Donc
oui, c'est vraiment tout bien, tout honneur. Musicalement, il est très émouvant. Donc c'était un honneur déjà de travailler avec lui. Et pareil avec Vincent. Parce que Vincent, au départ, on travaillait ensemble, c'est juste que le temps. C'est le temps, en fait. Du coup, il est parti, il y a toujours des retards, etc. Et puis il faisait l'album d'Oxmo Puccino. Donc il a commencé à travailler avec moi et il m'a appris énormément. Il m'a même donné confiance en moi. Vincent Segal, Lionel Suarez, Moussé Hakim, des Hebda, c'est des gens qui ont été très importants dans mon histoire musicale parce que c'est des gens qui, grâce à eux, où je me suis dit ah bah ouais en fait, bah, je suis légitime.
J'ai envie de nous interrompre quelques instants pour écouter un peu de musique. Et je me disais mais pourquoi pas écouter quelque chose avec Lionel Suarez? De manière à ce que les auditeuristes de l'émission comprennent qui est cet accordéoniste.
Avec plaisir.
Ça peut être...
Démodé. Accordéon, violoncelle.
Voilà, impeccable. On fait ça.
T'écrivais des mots doux, tu disais des mots tendres, au premier rendez-vous, je me suis laissé prendre, tu me donnais du vous. Des mots de notre langue, ils enlaçaient mon cou. Et j'adorais m'y pendre. Tu me disais des mots, des mots, des mots, des mots de rien du tout. Des mots, qui me parlaient de nous. Des mots, qui me parlaient de vous. Des mots, des mots, des mots, des mots, des mots. Qui me faisait un effet fou, peu à peu les mots tendres on désertait ta bouche, t'as préféré te vendre à des mots bien plus louches et sans bien le comprendre, le désir s'est enfui, j'ai cessé de me pendre à tes mots évanouis. Je les ai oubliés, les mots des mots des mots de rien du tout. Les mots des mots qui me parlaient de nous. Des mots qui me parlaient de vous. Des mots des mots des mots des mots qui me faisaient un effet fou. Aujourd'hui tu voudrais serré à pierre fendre les mots du passé pour pouvoir me reprendre, mais ils n'ont plus le goût de l'âge tendre. Ils se sont fanés, ils sont devenus cendres.
En ce moment, trafic d'air sur Jet FM 91.2.
On va continuer, on parle un peu justement de ce nouvel album, on en a un peu parlé déjà, mais je me dis que bon, dans ta carrière de comédienne, tu as travaillé sur plusieurs séries, en fait, ton job c'est plutôt 50-50 comédienne-chanteuse ou c'est 50-40-60?
Ça dépend des périodes. En ce moment, depuis le confinement, je suis plus actrice que chanteuse.
Ouais. Ouais. Parce qu'il y a moins d'occasions de monter sur scène, alors qu'on peut aller dans
les
studios.
Parce que les concerts ont été, voilà, il y avait toutes les salles fermées, etc. Et j'ai eu une chance inouïe où de 2020 à 2021, j'ai fait 5 longs métrages qui sortiront en 2022, dont un vient de sortir qui s'appelle La Vraie Famille, avec Mélanie Thierry, Liès Salem.
Oui, non. Cette histoire d'enfant qui est déposé dans une famille d'accueil et que le père veut récupérer.
Et moi, je joue la sœur de Liès, de Liès Salem.
D'accord.
Voilà, bon, c'est pas un focus sur moi, mais j'avais vraiment envie de participer à ce film.
Ouais.
Et voilà, c'était une aventure super, quoi. Avec Pascal Rénéric, qui joue mon mari, qui est un acteur exceptionnel, qui accompagne Fianso sur la pièce Gatsby.
D'accord.
Avec, ils sont accompagnés par un orchestre. Voilà, donc c'était une super aventure et l'histoire est géniale. Vraiment, j'encourage les gens à aller voir ce film qui est en salle en ce moment.
Et tu joues dans des séries aussi.
Alors, j'ai fait plusieurs séries. J'ai fait une série qui s'appelle Cannabis, qui est réalisée par Lucie Borleteau, qui a réalisé Princesse.
Le clip.
Voilà, le clip Princesse, qui est une réalisatrice que j'aime énormément. Qui a eu d'ailleurs un César pour son premier film qui s'appelait L'Odyssée de Fidelio. Ou Fidelio, une femme qui travaille sur un bateau avec que des hommes dans un milieu masculin. Ouais. Histoire aussi de viol. C'est une histoire très dure, mais magnifique.
On va parler un peu, quand même, de Princesse. Parce qu'effectivement, ça t'a laissé du temps, ce confinement aussi, pour travailler sur un album.
Mon album était fini avant le confinement.
Il était fini avant le confinement.
Ouais, ouais, ouais. J'étais en mixage et mastering. Ça veut dire que Princesse, même, je l'avais fini avant MeToo.
Ah.
Ça tombait bien. Mais de toute façon, les problèes des femmes, date pas de MeToo. Ça date de, on n'a pas attendu MeToo pour écrire. Et pour.
J'ai lu le numéro de Francophone dont tu fais la une,
oui.
Et dont tu es le dossier majeur, dans lequel tu donnes un coup de pouce à Pénélope Bagieux et à la Fondation des Femmes.
Oui, j'adore Pénélope Bagieux, mais c'est pas moi qui lui donnerai un coup de pouce. Hein. Elle est déjà bien.
Oui. Allez, tu en parles.
C'est plus elle qui pourrait me donner un coup de pouce que moi. Elle lui donne un coup de pouce.
Oui, c'est vrai. J'ai dit une grosse bêtise, peut-être.
Mais j'ai fait je l'ai mentionné parce que j'aime
tu
beaucoup.
Tu la mentionnes.
Les
donc
culottés.
Voilà. On est dans quelque chose. En fait, la dimension féministe est indubitable. Elle est là. Elle est dans ton histoire et dans ton propos.
Complètement.
Et c'est le cas de Princesse, avec un texte
complètement
sans ambiguïté.
Sans ambiguïté, et puis ça parle de plein de choses, je dirais. Puis j'avais envie d'amener quelque chose de drôle, quand même. Mm-hmm. Et j'avais envie que des petites jeunes écoutent Princesse, que dès qu'il y a un relou, un mec irrespectueux ou plus loin, de dire « je suis pas ta beurette à chicha, ta biquette shawarma », de servir de phrase « bon, je suis pas ta beurette à chicha », bon, ça concerne nous, les Karimas, les Malikas, oui, oui. Mais il y a plein de phrases, il y a plein de punchlines, en fait, où on peut servir pour... Donc, il y a une espèce de truc d'armes, où c'était des armes, bien sûr, c'est l'image, que j'avais envie de donner, vraiment très modestement, enfin c'est vraiment sans de donner à mes petites nièces, mes petites cousines, toutes les petites filles, et d'où l'envie d'avoir sur ce clip toutes les tranches d'âge, que ce soit ma grand-mère de 94 ans, ma mère, mes sœurs, des femmes de milieux complètement différents, de milieux sociaux complètement différents, de milieux culturels très différents. Pour moi, ça reflétait la France d'aujourd'hui. C'est vraiment ça, quoi. Et puis la force, quoi, le power de se dire attention.
Cela dit, j'ai l'impression que les ados actuellement sont de mieux en mieux armés en face des mecs et qu'ils ne se laissent pas avoir et marcher sur les pieds.
Et les garçons aussi maintenant flippent un peu plus. Mais ça vient depuis MeToo par contre.
Tant pis pour
ça, c'est vieux. Mais non, mais c'est bien. Mais par contre, les hommes réfléchissent à deux fois avant de faire quelque chose. Ouh là là, attention, parce qu'il y a les réseaux sociaux. Ils ont peur d'être hashtagués. Oui, hashtag MeToo, tu mets un nom, tu ruines la carrière.
Même si les réseaux sociaux servent aussi à harceler, à être pénible.
Alors, bien sûr, il y a deux poids, deux mesures. C'est que moi, j'ai un fils.
Quel âge?
Il a 18 ans. Donc en fait, moi, je viens d'une famille de femmes. Il y a eu beaucoup, beaucoup de filles. Et mes sœurs et moi, on n'a fait que des garçons.
Bon,
c'est comme ça.
C'est comme ça.
C'est des garçons géniaux. Avec beaucoup...
Moi, j'ai un fils aussi.
Très respectueux, très... j'adore mes neveux, j'adore mon fils. Tout est dans l'éducation, bien évidemment. De comment on élève nos enfants, etc. Et bien évidemment que je pense à mon fils, avec tous ces trucs-là de leur génération.
Ouais.
Les hashtags, les machins, c'est quelque chose que je mets en garde mon fils.
Ouais.
Je m'en garde mon fils, en lui dire attention. Tu vois, les filles, moi j'ai peur aussi. En plus, c'est quand même un beau gosse, c'est pas parce que c'est mon fils, mais vraiment c'est un beau gosse. Donc tu te dis, il y a aussi des femmes qui sont mal intentionnées, c'est pas les hommes, c'est tous des méchants, et les femmes, c'est pas binaire.
Oui, il y a des prédateurs, tu veux dire, dans tous les...
Il y a des prédatrices aussi.
Il y a des prédatrices, d'accord.
Voilà. Combien il y a eu de... Moi, je ne suis pas une anti-homme. Par exemple, il y a des féministes qui sont vraiment... Les hommes, ça ne sert à rien, ça. C'est pas mon histoire, en fait. Pour moi, c'est de l'extrême. C'est de l'extrémisme. C'est du fascisme.
Tu me rassures, là.
Ben non, mais c'est vrai. Non, mais parce que moi, j'ai des amis, même des hommes qui disent « Oh, ils nous font chier, les féministes. » Bon, ils abusent un peu, là.
Oui.
Ou tu les remets à leur place, tu dis « Oh, calme-toi, redescends d'un étage. »
Puis surtout, prends conscience d'une réalité que tu n'as pas envie de regarder en face.
Oui, bien sûr.
Et quand tu dis « Je ne suis pas ta beurette à chicha » et tout ça, tu dis « Voilà, il y a des réalités auxquelles il faut faire face et que les hommes doivent finir par comprendre. »
Bien sûr, et pas tous, parce que tu en as qui ont compris.
Mais...
Encore heureux, non, mais encore heureux, t'imagines?
Oui, oui.
Je veux dire, heureusement. Donc, et puis, c'est un combat qu'on doit faire ensemble.
Ouais.
C'est pas que les femmes ensemble. C'est les femmes et les hommes qui en ont conscience. Je veux dire, moi, par exemple, il y a un truc qui me choque. Au-delà de la violence et tout ça, c'est un truc, bon, voilà, de la violence faite sur les femmes, combien de plaintes, même la police, je veux dire, ils attendent presque qu'il y ait un meurtre avant de réagir. Ça, c'est bien souvent, c'est le problème. Mais il y a encore autre chose qui me choque encore plus, qui est très simple à mettre en place. L'égalité des salaires. Je ne vois pas en quoi c'est compliqué de remettre à égalité des salaires. Et au-delà de ça, il y a le problème des femmes et des hommes. Mais moi, j'ai une amie qui travaille dans la finance, qui est congolaise, mais elle n'a pas le même salaire qu'une autre femme blanche qui a le même poste qu'elle. Pardon, qui a le même poste qu'elle. Et ça, c'est grave.
Oui,
des petites choses.
Il faut vraiment
regarder ta fiche de paye, en fait, pour comparer. Dis donc, là, il y a un truc, là.
On va arriver à l'intersectionnalité, là. On va arriver au moment où, effectivement, il y a des luttes. Tu connais Françoise Vergès? Ça te dit quelque chose? Le féminisme décolonial?
Ça me dit quelque chose.
Ça te dit quelque chose?
Ouais, ouais, ouais.
C'est une femme de la Réunion, en fait, qui dit... Enfin, là, on est en train de s'égarer, hein, parce qu'on
oui,
ne s'égare
bon.
Pas, mais on est en train de parler de choses qui sont importantes.
Et puis, c'est important.
Effectivement, on peut être non seulement femme, mais en plus extra-européenne, racisée, et là, on cumule les difficultés,
ah,
bah,
là,
les handicaps.
C'est forfait millénium. Hein. Hein.
Voilà. C'est ce qu'on voit dans... Princesse, où on a Aïssa Maïga qui est avec toi, Aïssa Maïga qui a fait quand même ce travail. Noir n'est pas mon métier.
Awali aussi, qui est une chanteuse française
sénégalaise. Voilà. Et qui nous a fait comprendre, qui nous a fait entendre le fait qu'il fallait arrêter de cantonner les femmes noires dans des rôles de femmes de chambre et ainsi de suite. Enfin, bon.
Et pareil pour les Maghrébins, et puis alors on en parle des Asiatiques, parce qu'eux ils vont venir après. Parce que dans le cinéma des Asiatiques, t'en vois pas beaucoup, encore moins.
Ouais, sauf s'ils font du kung-fu, quoi.
C'est ouais, voilà, où ils font du kung-fu, ils tiennent un bar-tabar, ça s'arrête à ça. Mmh. Ou pas de porc, enfin, on est toujours dans le cliché. Comme à l'époque de Louis de Funès, où les Arabes, enfin, les Africains du Nord et du Sud, ils avaient des rôles de bêtes.
Tout à fait.
D'imbéciles, alors que, bon, on est loin du truc.
Oui.
Donc, au fur et à mesure,
quand on pense à Averroès et à quelques autres, je pense que la civilisation occidentale doit beaucoup à la philosophie du Maghreb et à des penseurs. Enfin bon, mais ça, beaucoup l'ont oublié. Enfin, ou
bien
tout au moins, ne veulent pas le
souvenir.
Regarde,
pour clore sur ce sujet, il y a quelque chose qui m'a choquée et je vais te dire, c'est une amie. C'est pas une grande amie, c'est une connaissance. Une actrice que je connais, je ne dirai pas le nom, qui, après Les Sauvages, me dit, dis donc, Karima, t'as un agent? J'ai dit, non, mais j'ai quelques rendez-vous, là, à la rentrée et tout. Ah oui, non, mais attends, il faut que je te présente un ami à moi qui a une agence. Et je lui dis, non, mais ça va aller, j'ai des rendez-vous. Puis moi, je googlise l'agence dont elle me parle. Et puis, je vois les comédiens, c'est des comédiens qui sont finis. C'est des comédiens qui font de la télé-réalité, ça ne m'intéresse pas. Et là, je lui dis, non, écoute... Vraiment, diplomatiquement, je dis, non, t'inquiète, c'est très gentil. Merci beaucoup, c'est gentil et tout. Et là, elle me dit ça. Mais attends, je lui ai parlé de toi et il n'a pas d'arabe dans son catalogue. Et les arabes et les noirs, ils sont grave à la mode en ce moment. Mais tu te rends compte?
Oh.
Je ne savais pas s'il fallait que je rie ou s'il fallait que je pleure. Par contre, je lui ai dit, non, attends, c'est pas à la mode. On est là depuis longtemps. Moi, je suis née là. C'est pas une question de mode, c'est qu'on fait partie de la France. C'est pas un phénomène de mode, là, on n'est pas à l'époque de Louis de Funès. Et ça va pas aller en s'arrangeant. Parce que maintenant, on met des focus sur les gens des quartiers qui ont des talents inouïs. Ça va pas s'arrêter. C'est ça la France d'aujourd'hui, il faut arrêter de dire, mais dis donc, y a pas... Dans toutes les séries ou les films, quand il y a plein de blancs, ça choque personne.
Oui,
et dès
oui.
qu'il y a une série où il y a des. Mais t'as vu, c'est le cliché, il y a des arabes, il y a que des noirs. C'est quoi ce truc? C'est quoi cette mentalité? On est en 2022. C'est ça qui est alarmant. Moi, ça me fait peur, ça. Mais en même temps, c'est très inspirant pour faire des sketchs.
Il y a une chanson dans ton album...
Bougnoul,
ouais.
Complètement. Alors,
il faut qu'on l'écoute là maintenant, non?
Avec plaisir, je te raconterai après.
Tache de gasoil sur mon passeport. Tatouage tribal à bâbord, à tribord. Visage hagard dans les traboules. Soleil bannière sur ma vie saoule. Vestiges d'ailleurs dans le réservoir. Rage de planteur sur le trottoir. Désir désert sous le bitume. Cri du renard sous le quart de lune. Bougnoul, frère de palier, facho fâché. Bougnoul, frère de tranchée, indigène oublié. Bougnoul, aide de Denia le moma. Bougnoul, le moma aide de Denia. Fâche au fâché, Bougnoul, frère de tranchée, indigène oublié. Bougnoul, aide de Denia le moma. Bougnoul, le moma aide de Denia. Soleil hagar aux huiles d'argan, brûle ma peau jusqu'au sang. Vise hamar aux pinces d'argent, berbère chaman, regard troublant. Et sous mes chars, vallée du Rif, fumée de taf, vallée du kiff. Avec la douceur d'un enfant. Puis le sabre entre les dents. Bougnoul, frère de palier, facho fâché. Bougnoul, frère de tranchée, indigène oublié. Bougnoul, aide Denia le moma. Bougnoul, le moma aide Denia. Bougnoul, frère de palier, facho fâché. Bougnoul, frère marché indigène oublié. Gougnoul, aide Daniel, mon mât. Gougnoul, boule enflammée, lave de volcan. Là où se lève gris bâtiment. Énergie fauve dans le sablier. De langue française à baliser. Rêve furtif et fulgurant. Flagrant délit de l'âme qui tend à se mêler aux fils migrants et se faufile sous l'ouragan. Bougnoul, frère de palier, facho fâché. Bougnoul, frère de tranchée, indigène oublié. Bougnoul, frère de palier, facho fâché. Bougnoul, frère de tranchée, indigène oublié. Bougnoul, aide Daniel, Moma.
Écoutez bien en ce moment Trafic d'air sur Jet FM 91.2.
On a beaucoup parlé des sujets qui sont vraiment au cœur de ton de ce qui t'importe, mais est-ce qu'on a omis quelque chose? Et première question, est-ce qu'on a omis quelque chose dont tu as envie encore de parler? Et deuxième chose, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce que c'est après? Là, on est en fin février 2022, qu'est-ce qui s'ouvre devant toi? Il y a des dates, il y a des choses.
Bah, alors,
est-ce qu'on a omis quelque chose d'abord? Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu as encore envie de parler qui serait important pour toi et que tu voudrais mentionner pour que les auditeuristes de l'émission fassent mieux connaissance avec toi?
Alors, bah, je voudrais juste parler du morceau qu'on vient d'écouter, Bougnoul,
ouais.
Qui est un mot que j'ai beaucoup entendu enfant et en grandissant, sur les réseaux sociaux de plus en plus. Sale Bougnoul, va chanter des trucs de chez toi. Qui est des bourrées charentaises éventuellement, mais et puis j'ai été vraiment, je me suis vraiment intéressée à l'étymologie du mot, d'où venait ce mot-là en fait, et j'ai appris par la magie d'Internet qu'en fait le Bougnoul c'est un nom qu'on a donné aux indigènes, aux tirailleurs sénégalais qui se sont battus deux fois pour notre pays, la France. Ce sont des hommes qui se sont battus contre les oppresseurs de leurs oppresseurs. Et comme ils étaient en première ligne, c'était la chair à canon, bien évidemment, on leur donnait, pas des smoothies aux concombres, même si la plupart étaient musulmans, on leur donnait de la gnôle, de la bonne gnôle, ramenée par les bougnats. Et avec l'accent, ils disaient « bon gnôle ».
D'accord.
Ah, t'es les bougnoles. Donc, ils buvaient la gnôle pour se donner
le courage.
Ils allaient mourir. Ils allaient mourir de toute manière.
Et donc, cet horrible
probe. Qui a été repris par les soldats français.
Est originaire du casse-pipe.
Tu te rends compte? Et donc, c'était pour moi un hommage à ces hommes. Juste pour remettre, en fait, un peu, remettre les pendules à l'heure. Vis-à-vis de la fachosphère, et de dire attention, les gens que vous appelez les bougnoules, c'est des gens qui se sont battus pour notre pays, qui sont morts pour notre pays. Et donc il y avait ce truc là et un truc un peu plus léger et un peu plus drôle, c'est que j'ai eu envie de faire comme les rappeurs noirs américains, c'est-à-dire de s'approprier le mot nigger. Ils se sont appropriés le mot nègre.
D'accord.
Du coup, le fait que tu t'appropries un mot que tu reçois en général comme insulte, ça atténue ce truc de se dire mais c'est bon, ça me touche même plus là, ton truc de bougnoul, de nigger, de nanana. Donc il y a un espèce de truc, le fait de s'approprier, qui est une force, enfin une force, une espèce de force, une espèce de réponse en fait,
un,
au racisme,
un renversement finalement de ce signifiant qui devient que tu utilises pour toi.
Voilà.
Parlons donc de l'avenir. Il y a des dates, il y a des projets, il y a je sais pas, tu
mais
retournes...
Mais les salles réouvrent, les masques vont tomber, on va pouvoir se mettre debout et danser, faire bouger nos petits corps ou nos gros corps, peu importe. Donc il y a des dates, comme on dit à Hollywood, Inch'Allah. Et puis des tournages.
Ouais,
là,
des tournages, oui, tu retournes sur les plateaux.
J'y suis déjà là depuis janvier. Donc là, il y a 5 longs métrages, dont un avec Laure Calamy, qui parle justement des femmes de ménage dans des palaces en France, leur vie. Et puis d'autres films. Et puis là, il y a un gros projet où, où je tiens un des rôles principaux. On est 4 rôles. C'est une série qui va passer sur Netflix et qui s'appelle Bendo. Et c'est la série de Nawel Madani, qui est une comédie dramatique.
D'accord.
Voilà.
Bon, donc on va guetter tout ça pour retrouver Karimouche. On se quitte avec une chanson. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on écoute? Est-ce qu'on écoute une chanson de toi? Au contraire, est-ce qu'on écoute quelque chose de quelqu'un que tu vénères et que tu as envie de nous faire découvrir?
Alors, ouais, je voudrais qu'on écoute Shiharimiti. Noir, le morceau Noir, qui est un morceau qui a bercé mon enfance. Cette chanteuse me fait penser à ma grand-mère, à toutes les femmes qui m'ont éduquée et qui représente une force de la nature, qui a une voix cassée. Et c'est une chanson qui m'a bercée aussi dans les mariages quand on était petit. Tout le monde dansait sur Shiharimiti. Et voilà, je voudrais faire découvrir ça à tous les auditeurs parce que c'est indémodable et vous allez danser grave.
Super, merci Karimouche.
Je t'en prie, avec plaisir.
Ah là là.
I know.
Voilà, c'était Cheikh Arimiti, la recommandation de Karimouche pour terminer cette interview avec cette chanteuse hors du commun que j'espère vous aurez l'occasion d'entendre en live parce que elle bat les planches d'une manière formidable, c'est une véritable meneuse de revue. Cet enregistrement est bien la rediffusion de cet entretien avec Karimouche, dont j'espère qu'effectivement vous avez eu depuis l'occasion de la voir sur scène. Et si ce n'est pas le cas, je vous rappelle qu'elle fait partie de la troupe qui va jouer les chansons primeurs. Donc si vous ne vous souvenez pas du principe des chansons primeurs, il s'agit d'un groupe de 8 artistes qui montrent sur la scène avec des chansons qu'ils ont créées dans les 3 jours qui ont précédé, donc des chansons toutes fraîches, toutes neuves, et qui jouent encore sur scène à créer des chansons avec l'aide du public parfois. C'est un grand moment et j'espère que vous aurez l'occasion de le découvrir dans quelques jours à la Bouche d'Air. Sinon, eh bien écoutez, on se retrouve la semaine prochaine, mais je ne sais pas encore pourquoi. Allez, bon week-end.
Pends-toi ma langue et fais tout ça.